France Musique. Un rendez-vous en partenariat avec le magazine Marianne.
Jacques Janssen, un baryton légendaire pour tous les mélomanes, qui fut notamment l'un des plus grands Péléas, mais il adorait aussi l'opérette et la musique légère. Nous en avions parlé ensemble dans Étonnez-moi Benoît, un an tout juste avant sa disparition. Étonnez-moi Benoît avec Jacques Janssen, le 3 mars 2001.
D'une façon étrange que tout mon cœur à vous, cher ange, se donna. Comme je passais dans la rue, soudain vous m'êtes apparu, Malvina. Vous oniez de la mousseline avec une grâce divine, Malvina. Et cette vulgaire boutique d'une vision poétique rayonna. Devant cette image parfaite, mon admiration muette s'inclina. Pour la merveilleuse surprise, cheveux d'or et main de marquise, Malvina. Il me vint une folle idée. Avant vous, mon âme obsédée domina. Sous un maintien fier et modeste, une créature céleste, Malvina. Alors j'entrais chez votre père, modeste employé, pauvre père, et qui n'a qu'un seul moyen problématique de vous être un peu sympathique. Malvina.
Oui, c'était vous.
Jacques Janssen, bonjour.
Bonjour.
Je me fais un grand plaisir en vous recevant aujourd'hui, et je crois que je fais plaisir aussi à de très nombreux auditeurs, parce que évidemment, pour les mélomanes, pour les auditeurs de France Musique, vous êtes notamment peut-être le grand Péléas du disque et de la scène depuis de très très nombreuses années maintenant, on peut le dire. Mais ce que les auditeurs ne savent peut-être pas tous, c'est que vous avez aussi beaucoup chanté l'opérette. Là, on vient d'entendre un extrait de Malvina de Reynaldo Hahn, enregistré à la radio en 1961, l'air justement principal du rôle masculin de Malvina. Et au fond, peut-être que donc les auditeurs seront un petit peu étonnés de vous découvrir dans le répertoire d'opérette, mais il y a quand même une grande logique, parce que quand on pense à Péléas, justement, on peut rappeler à ses auditeurs que l'homme qui a créé Péléas, qui s'appelait Jean Perrier, avait créé sous la direction de Messager, donc Péléas, et 2 ans ou 3 ans auparavant, il avait créé du même Messager le rôle de Florestan dans l'opérette Véronique. Donc il y a quand même comme quelque chose tout à fait naturel. Vous avez déjà pensé à ce rapprochement avec Jean Perrier?
Bien sûr, j'ai bien connu Jean Perrier. Il était déjà très âgé, mais enfin je l'ai connu, entre autres pour le cinquantenaire de Péléas qu'on a fait à l'Opéra Comique.
Et c'est vous qui chantiez?
C'est moi qui chantais, oui. Il assistait à la représentation, enfin j'ai rencontré plusieurs reprises. Il a même voulu une fois faire une mise en scène à l'Opéra Comique dans Péléas, mais ça c'était un peu plus un peu plus gris, si je puis dire. Mais c'était un homme de grand talent qui avait beaucoup de distinctions et qui était très bien.
Et pour lui c'était tout naturel d'avoir chanté aussi bien Péléas que le répertoire d'opérette.
Bien sûr. Et il a du reste créé beaucoup de rôles que j'ai repris par la suite, et du Parquet, de Ciboulette,
Il y a eu en tout cas Véronique et du Parquet.
Véronique, du Parquet, et le Hanche Lourd de Flûte aussi.
Vous avez chanté également.
Que j'ai chanté également.
De Louis Gard. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu la même voix que celle des mélodies de Debussy ou de Péléas, et celle de l'opérette française de l'époque?
Oui, c'est une voix classique, tout à fait normal, tout à fait normal. C'est plus dans une tessiture moyenne que les Viennois, par exemple.
Oui, c'est ça.
C'est ténorisant, bien souvent.
Parce qu'on retrouve quand même ces personnages de barytons un peu aigus qui sont vraiment un peu la marque de toute la musique française de l'époque.
Martin, ce qu'on appelle le baryton Martin, dont je faisais partie.
Voilà. Et qui était, ce qui était aussi le cas de votre professeur Charles Panzera.
Oui.
Qui, lui, n'a jamais chanté d'opérette.
Non, n'a jamais chanté d'opérette, certainement pas. Et moi, je ne voulais pas en chanter non plus. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec lui, donc, pendant 3 ans. Et, je voulais faire l'oratorio du récital uniquement.
Ah oui.
J'ai fait beaucoup de récital du reste par la suite dans le monde entier, mais, l'opérette était très loin de moi à ce moment-là. Et tout le monde me disait, oh, quel Danilo tu ferais. Danilo connaissait pas. La Veuve Joyeuse connaissait pas. Uh-huh. Et un jour, mes parents étaient retirés en Touraine. Je suis allé au Grand Théâtre de Tours voir La Veuve Joyeuse. En sortant, j'ai dit, c'est ça qu'on veut me faire jouer? Jamais. Finalement, j'ai joué plus de 2000 fois.
2000 fois La Veuve Joyeuse.
Ah oui, j'ai joué dans tous les pays francophones.
Mais comment est-ce que s'est fait le tournant? À partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à aimer l'opérette? C'est en faisant?
Eh bien,
par la force des choses?
En faisant, parce que c'était en 41. J'ai commencé l'opérette, la première opérette, c'était La Tendre Aline de Marc Berthomieux, que j'ai joué. À 50 mètres, ça s'appelait le théâtre, je ne sais plus comment. À 50 mètres de l'Opéra Comique, j'ai franchi ces 50 mètres pour aller chanter Pélas pour la première fois sur scène en 41.
Ah oui. Voilà. Et vous faisiez les deux rôles en alternance?
Ah non, pas en alternance. Non, j'avais arrêté. J'avais arrêté l'opérette, bien sûr.
Thank you.
Et là, nous sommes toujours en 1941, Jacques Janssen, parce que c'est cette année-là que vous avez enregistré ce fameux pot-pourri avec Yvonne Printemps, qu'on a reconnu, bien sûr, en duo. Donc, quelques extraits choisis et adaptés de Véronique. Oui. Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Yvonne Printemps?
Oh, très bien. Elle était charmante. Elle était très bien. Très, très, très aimable. Très gentille.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'on entend mieux sa voix que la vôtre dans l'enregistrement?
J'ai bien fait remarquer, c'était elle, là. Peut-être, j'étais là parce qu'on pouvait pas faire autrement, évidemment.
Le
duo de Véronique, on pouvait pas les faire sans Florestan, mais il fallait que je tienne mes distances.
Ah oui, donc il y avait un petit réglage pour que la vedette soit au premier plan.
Oui, ça s'entend du reste. Mais je suis en retrait.
Printemps, elle était une femme avec vous, charmante.
Oh, charmante.
Parce qu'on dit parfois qu'elle était un peu méchante.
Oui, elle a même voulu que je tourne avec elle après, quand ils ont tourné le Duel de l'Avedan. Freinet m'a même fait travailler le rôle un peu, puis finalement, c'est pas du tout pour moi, c'était par sympathie qu'elle voulait que je le fasse, mais c'est finalement, je ne sais plus qui a fait le rôle, mais un monsieur beaucoup plus âgé que moi.
Véronique, vous l'avez joué en scène avec Yvonne Printemps, ou ça c'était juste pour le
dire? Non, elle n'a jamais joué Véronique en scène, non, pas à ma connaissance.
Mais vous l'avez beaucoup joué?
Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. En France et à l'étranger, j'ai joué à Bruxelles, à Genève, à Montréal, j'ai joué dans beaucoup d'endroits.
Et on peut dire qu'il y a quand même plusieurs catégories dans l'opérette, et que là, on est quand même dans les œuvres du haut du haut de gamme.
Il était tout de même à la création de Pelléas, et j'aime beaucoup Messager. Il y a des ouvrages que j'adore de lui, non, Véronique, entre autres.
Vous avez chanté aussi Monsieur Beaucaire?
Monsieur Beaucaire, bah oui, je l'ai créé à l'Opéra Comique. Je ne l'ai pas créé au départ, mais créé à l'Opéra Comique.
La reprise à l'Opéra Comique.
Avec Denise Duval comme partenaire. Et c'est un rôle que j'adore. C'est un de mes principaux rôles, c'était Véronique et Beaucaire.
Alors, quand on évoque vos partenaires, là, on vient d'entendre Yvonne Printemps, vous avez cité Denise Duval. Il y a eu aussi Fanélie Révoil,
oui, dans la création de Fragonard, toujours à l'Opéra Comique.
Elle avait quand même un talent d'actrice assez remarquable.
Bien sûr. Ouais. Oh oui, c'était un très bel ouvrage, très bien monté par Maurice Lehmann, c'était très bien.
Mais vous-même, Jacques Janssen, puisque vous nous avez expliqué que vous aviez appris le chant, notamment avec Panzera, que vous ne vouliez pas spécialement faire de l'opérette au départ, finalement, le métier d'acteur, il a fallu que vous l'appreniez aussi. Vous l'avez appris sur le tas,
J'ai été élève de Jouvet, de Louis Jouvet au conservatoire, et j'ai été engagé à la Comédie Française pour la tragédie. Pour jouer Hippolyte de Phèdre en 39, j'avais mal choisi mon époque parce que la guerre est arrivée qui a mis fin à ce... Mais j'étais engagé pour jouer avec Marie-Belle et Yonel en 39 à la Comédie Française. J'ai passé après une audition sur la scène du Français. Du reste, on était une douzaine, je crois, d'Hippolyte.
Donc vous aviez vraiment les deux métiers, le théâtre et la musique.
Oui, oui. J'ai été élève de Raymond Rouleau et de Julien Berthaud, en même temps que j'étais élève de Panzera, qui était le cours le plus célèbre de Paris à ce moment-là, qui a révélé pas mal de grands artistes.
Oui, bien entendu.
Oui. Thank you.
semble descendre du firmament que l'astre irise.
Exquise, une mélodie de Reynaldo Hahn, oui. Bien sûr, accompagnée ici au piano par Jacqueline Robin, qui oui. s'appelait Jacqueline Bonneau à l'époque, oui. qui était oui. la femme du chef d'orchestre Paul Bonneau. Jacqueline Bonneau Robin. Donc Jacques Janssen, c'est un enregistrement qui a été réalisé dans une petite maison de production qui s'appelle MC Productions, des reprises
oui.
de toute une série de mélodies de Reynaldo
oui.
Hahn,
oui.
qui était paru initialement chez Musidisc.
Voilà.
Alors Reynaldo Hahn, Jacques Janssen, voilà un personnage dont j'aimerais bien qu'on parle un peu, parce que je crois que vous l'avez connu personnellement.
Reynaldo ?
Oui.
Ah oui, oui, très bien, puisque j'ai créé à l'Opéra Comique Malvinas sous sa direction. Ensuite, c'était à la Libération, nous avons fait une tournée pour les troupes d'occupation française en Allemagne, où j'ai joué beaucoup et avec lui sous sa direction.
Et vous l'aviez rencontré pour la reprise de Malvina à l'Opéra Comique ?
Je le connaissais avant. Ah d'avant, oui. parce qu'il était venu diriger à Rennes en 1939, quand la radio était repliée à Rennes.
Ah oui.
Il était venu diriger un concert et dans lequel j'avais chanté. Nous étions connus à ce moment-là.
Et c'est un homme... genre de souvenir avez-vous du personnage ?
Quel genre de souvenir ? Un homme évidemment très cultivé, charmant, mais un peu lointain. Un peu, il mettait des barrières comme ça.
Ah oui.
Il était très, très aimable, très charmant, mais...
Oui, mais, un peu réservé.
Oui, réservé, disons le mot.
Et dandy.
Oui, exactement.
Et le chef d'orchestre
C'était un très bon chef d'orchestre, surtout, je ne sais pas, pour d'autres choses, mais pour son œuvre, il était très bien, évidemment, il était parfait. Il connaissait évidemment tout ce qu'il pouvait tirer de l'œuvre.
Donc, Reynaldo Hahn, vous l'avez bien connu, et Reynaldo Hahn avait un héritier, si on peut dire, parmi les compositeurs, qu'on a beaucoup oublié aujourd'hui, que vous avez chanté aussi, qui était Louis Betz.
Ah oui, Louis Betz, qui était en plus un très grand ami, un excellent compositeur. J'ai créé de lui et à l'aimable Sabine au Théâtre Marigny.
Alors, à l'aimable Sabine, rappelez-nous, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne connaît ce musicien.
Évidemment, ça ne s'est pas redonné.
C'était une opérette.
Une opérette, on l'a redonnée après à Monte Carlo, je ne sais plus. Ouais. Une comédie musicale, disons, un cheval entre comédie musicale, les limites sont très, très ténues. Ouais. Et c'était un ouvrage charmant, très bien monté. Ouais. Léopold Marchand avait fait le livret, et Louis Bess avait participé aussi au livret. Et nous avons fait ça tout de suite après la Libération, quoi. C'était en 46, je crois, ou en 47, je ne sais plus. Et je rentrais juste, je venais d'aller au Théâtre Colomb à Buenos Aires pour la première fois. Ça semblait magnifique. On sortait de l'occupation. Et nous avons créé ça à ce moment-là avec Germaine Roger, Gabriel Listori, Paul Villet.
Gabriel Listori, qui d'ailleurs, on l'a un peu oublié aussi, c'était une grande chanteuse opérette. Qui avait été une héroïne de la résistance, qui avait été déportée pendant la guerre.
Elle avait créé l'auberge du Cheval Blanc.
Voilà.
Oui, elle était charmante, nous étions très amis. Ouais. Et avec son mari, Maurice Yvain, j'étais très ami aussi.
Ah oui, parce que Gabrielle Ristori était
mariée
la femme de Maurice
à ce moment-là, quand je l'ai connue, avec Maurice Yvain.
Je précise d'ailleurs aux auditeurs qu'il existe un petit disque de Jacques Janssen, dans lequel, je ne sais pas si on le trouve très facilement non plus, celui-là, mais dans lequel on peut entendre des extraits justement d'un certain nombre d'opérettes, et notamment de Maurice Yvain. Il y a là des passages de Tabouche avec Suzanne Lafaille, une autre chanteuse avec laquelle vous avez travaillé.
Oui, oui, qui était charmante, oui. avec un très joli timbre. Une bonne, une charmante camarade.
Et puis aussi, justement, quelques extraits de À l'aimable Sabine, dont la fameuse berceuse
oui,
qui était le grand air que vous avez donc créé en 1947 à Paris, sous la direction de Louis Betz lui-même.
Voilà. espérance. Ferme tes yeux pour ne point voir dans les miens cette impatience que je ne veux pas concevoir. Viens contre ma tremblante épaule, la main dans mes deux mains. Je connais bien mal mon rôle. Nous l'oublierons demain. Près de moi, chaste et caressée, en te berçant d'un songe d'or. Ô mon enfant, ma sœur, ma fiancée, la belle au bois dormant, je t'en prie, amour, fais semblant de céder au sommeil quand ma voix t'y invite. Au couplet, j'ajoute un couplet, tel jadis le prince inquiet de l'éveiller tranquille. Oh, mes bras, rêve d'espérance. Ferme tes yeux pour ne point voir dans les miens cette impatience que je ne veux pas concevoir. Viens contre ma tremblante épaule, la main dans mes deux mains. Je connais bien mal mon rôle, nous l'oublierons demain. Près de moi, chaste et caressée, en te berçant d'un songe d'or. Ô mon enfant, ma sœur, ma fiancée.
À l'aimable Sabine de Louis Bette, là vous fredonniez Jacques Janssen, vous vous souvenez parfaitement de ce morceau. Il y a des morceaux qui vous ont plus marqué que d'autres, peut-être.
Oui, et des ouvrages aussi.
Oui, c'est ça. Évidemment, ici, dans cette musique de Louis Betts, il y a une harmonie extrêmement raffinée. Oui, on sent que c'est l'œuvre d'un vrai musicien.
Oui. Il était directeur de l'Opéra Comique, entre autres.
Oui, c'est ça.
Et non, c'était un parfait musicien. Et très exigeant, très, très pointilleux, si je puis dire, sur la façon d'interpréter.
Et peut-être vous vous êtes senti...
Il a fait d'excellentes mélodies, du reste, on ne chante plus. On les chantait encore au conservatoire, ça arrivait, mais ça se perd, évidemment. On passe au suivant, maintenant, très facilement. Mais c'est dommage, parce qu'il a fait de très, très jolies mélodies, que j'ai beaucoup chantées, du reste.
Un musicien vraiment à redécouvrir.
Ah oui.
On peut quand même observer, d'ailleurs, Jacques Janssen, dans votre carrière, que vous avez peut-être été toujours plus attiré par... Je dirais l'opérette très musicale, très bien écrite, sûr. plus que par les œuvres de fantaisie.
Au départ, j'étais musicien, j'ai joué du violon, du violoncelle, du basson. J'ai fait des études musicales assez complètes, même de l'harmonie un peu. Et j'étais donc attiré, c'était mon pain quotidien.
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on peut observer aussi, malheureusement, ça, dans votre carrière, c'est que, bien que vous soyez connu comme l'un des grands chanteurs de votre époque, eh bien, finalement, quand on regarde sur les catalogues de disques, il y a très, très peu de choses en dehors de Péléas. C'est notamment, par exemple, dans le domaine de l'opérette, il n'y a pratiquement rien. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, alors qu'il y a des chanteurs qui ont gravé tant de disques à la même époque ?
Parce que je travaillais seul, je n'avais pas d'impresario, et que les autres se chargeaient de demander. Et moi, j'attendais qu'on me demande, alors évidemment, il y avait d'autres qui attendaient derrière la porte.
Donc vous n'avez jamais, comme Michel Danse ou Bacquier, été engagé par une maison de disques pour faire tout le répertoire
Non. Non, j'ai fait, gramophone La Bœuf Joyeuse.
Voilà, on en entendra un morceau tout à l'heure, mais sinon, il y a très peu de choses, et c'est pour
très
ça que...
Il y a eu des disques, mais pas des ouvrages complets, mais enfin des extraits, comme Ta Bouche, des choses comme ça, dans des disques à plusieurs facettes.
Alors, nous avons quand même, heureusement, à la radio, des petits trésors dans nos archives, et il faut dire que si vous n'avez pas fait énormément de disques, vous avez par contre participé assez régulièrement aux enregistrements de la troupe de Radio Lyrique. Donc on a comme ça, heureusement, des traces de vos prestations dans l'opérette. On entendait tout à l'heure Malvina, mais vous êtes venu assez souvent ici Est-ce que c'était un...
Pas ici même, parce que c'était pas... ça date d'une autre époque.
Bien sûr.
C'était pas encore construit ici.
Où se trouvaient les studios de la radio à l'époque?
Je me souviens. Rue...
À Montparnasse.
Il y avait quelque chose vers Montparnasse, je me souviens plus exactement.
Et c'était une forme de travail qui vous plaisait alors
c'était très sympathique avec de très bons camarades en général. On se retrouvait à peu près une équipe connue.
Oui, alors il y avait Lina Dachary.
Il y avait des tas de gens très sympathiques et qui connaissaient très bien leur travail et leur métier.
Et vous aviez le temps de répéter suffisamment les œuvres
Répétait, évidemment, moins que maintenant, parce que maintenant on abuse des répétitions. Par exemple, pour l'opérette en province, maintenant on répète un mois pour jouer trois fois. Et de mon temps, on répétait le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi c'était la première, le samedi la seconde, et on jouait deux fois le dimanche.
Après, on en jouait au moins plusieurs dizaines de fois.
Et pour les fêtes de Noël, par exemple, on donnait une quinzaine de représentations dans tout théâtre. Maintenant, quand on en donne trois après avoir répété plus d'un mois, on s'estime très heureux. Non, il y a une décrépitude de ce côté-là, c'est terrible, terrible.
Vous avez aussi, Jacques Janssen, créé beaucoup de rôles d'opérette, donc sur la scène de l'opéra comique, à l'époque où peut-être le répertoire de l'opéra comique s'élargissait peu. Alors, j'évoquais tout à l'heure avec vous Malvina, on pourrait citer aussi La fille de Madame Angot en 1953.
La fille de Madame Angot, J'ai créé aussi La Belle de Paris de Georges Vamparis.
Ah, Georges Vamparis.
Que j'aimais beaucoup, qui était un ami charmant et un très bon compositeur, très musicien.
C'était une belle œuvre, la Belle de Paris de Georges Vamparis.
C'était charmant. J'avais une seule scène très importante et où je dansais. Jean-Jacques Etcheverry, qui était le metteur en scène, qui avait été danseur, j'avais connu à l'Opéra Comique, du reste, m'avait fait faire des choses invraisemblables. Je tournais, je sautais sur la table tout en chantant. J'avais la scène durait 12 minutes, 15 minutes, je sortais de là épuisé. C'était très, très amusant à faire. Je m'étais fait un personnage à Dali, j'étais très mince à ce moment-là, avec une petite moustache relevée aux extrémités. C'était très bien. J'ai chanté aussi de Ciboulette, des tas d'autres rôles aussi, en dehors de l'opéra comique. J'ai même chanté des choses comme Balalaika, Nina Rosa.
Ah oui, même ce genre d'opéra.
Oui, même ce genre d'opéra. À Bruxelles, où j'avais un grand public, où on me demandait souvent. J'allais là-bas.
Mais qu'est-ce que vous pensez de l'époque Châtelet, Lopez, etc. C'était quelque chose que vous aimiez bien
Personnellement, c'était pas ma tasse de thé.
Vous êtes plutôt un artisan de l'opérette classique, disons.
Je suis un classique, avant tout. Mais il y avait un grand public pour tout ce répertoire, un grand public qui existe toujours, du reste. Je ne sais pas pourquoi, les directeurs ont mis en quarantaine, si je puis dire, tous ces ouvrages qui attiraient du monde, qui plaisaient au public et qui étaient charmants et qui étaient de la bonne musique, surtout. Maintenant, on fait un peu, parfois, n'importe quoi.
Oui, l'opérette est passée de mode, c'est certain. Les directeurs de théâtre la programment assez
mode.
Peu.
Pour les directeurs qui disent « l'opérette », ils jouent ça comme un mode mineur, mais non, il y a la bonne et la mauvaise musique, un point, c'est tout.
Oui, bien sûr.
Il y a de très mauvais opéras, parce que c'est un opéra, on se mettra à genoux devant. Et puis des opérateurs, non. Je ne suis pas d'accord, pas du tout.
Mais ce sont des grands artistes comme vous qui ont pu chanter les deux, l'opéra et l'opérette, qui nous prouvent justement
que ce n'est pas un genre mineur. J'ai eu cette chance au début, parce que je me souviens, dans ma jeunesse, en 37-38, les artistes étaient cantonnés ou dans l'opéra ou dans l'opérette. Et quand j'ai chanté La Veuve pour la première fois à Mogador en 41, sur les colonnes Maurice, il y avait deux grandes affiches. D'un côté, l'enregistrement de Pélias, de l'autre côté, La Veuve Joyeuse. Voilà. Les gens ne devaient pas très bien comprendre.
Alors, entre l'opéra et l'opérette, il y a un autre genre qui est ce qu'on appelle l'opéra comique, et vous en avez créé un certain nombre, notamment sur la scène de l'opéra comique de la Salle Favart. Vous avez créé Fragonard de Gabriel Pierné. Oui. Et peut-être on va écouter tout de suite un air, c'est l'air d'entrée justement du personnage de Fragonard que vous incarniez. Voilà. C'est un enregistrement réalisé à la radio en 1957 sous la direction de Tony Aubin.
Attachez-moi le mouchoir.
Vous avez peur de moi, peur de moi. Voyons, voyons. Ce n'est que moi, ce n'est que Fragonard. Vous étiez si gentille, gentille. Continuez, petite fille, continuez vos jeux charmants. Vos adorables adonnements, vos comparaisons sont libertines. Pourquoi ces cris? Pourquoi m'avoir repris ces seins fleuris et ces jambes mutiles? Ah, remettez-moi dehors tous ces trésors, ces blancs contours, ces souples lignes dont mes pinceaux indiscrets seuls sont dignes de faire admirer les attraits. Oh, méchante, méchante petite fille, vous avez peur de quoi? Soyez gentille. Ah, ce n'est que moi, ce n'est que moi, c'est Fragonard. Ce n'est que moi.
Tristes enfants perdus, nous errons dans la nuit. Où sont les pleurs de jour? Les plaisirs de l'amour, les lumières de la vie. Tristes enfants perdus, nous errons dans la nuit. La lune blanche et nue dans le ciel mon sourire est glacé, glacé nos cœurs aussi. Tristes enfants perdus, nous errons dans la nuit. Le diable nous emporte sournoisement avec lui. Le diable nous emporte loin de nos belles amies. Notre jeunesse est
premier extrait, c'était donc Fragonard de Gabriel Pierné, où Jacques Janssen chantait sous la direction de Tony Aubin. Et puis le deuxième extrait, c'est peut-être l'une des pages les plus célèbres du cinéma français, extraite du film Les Visiteurs du Soir, que beaucoup d'auditeurs évidemment ont vu, le film de Marcel Carné. Ce que les auditeurs ne savent pas toujours, c'est quand ils voient le troubadour joué par Alain Cuny qui chante dans le film, ils entendent en réalité la voix de Jacques Janssen, puisque c'est vous qui avez doublé donc toutes ces chansons.
Et je me souviens, c'était pas facile. car pour la balance, il y avait juste deux harpes à l'autre bout du studio,
oui.
Et dont une petite médiévale qui servait pour les maîtres chanteurs, qui n'était pas très juste toujours.
Ah oui.
Et j'avais sur le casque sur les oreilles avec Cuny me chantant, pas très juste dans mes oreilles, et tout ça avec Marcel Carné qui me dit, c'est très bien, mais je voudrais encore ceci, tout ça. Finalement, on a passé 2 heures pour enregistrer la première qui durait 1 minute et demie.
C'était votre première expérience au cinéma ?
Au cinéma, j'ai fait des films, j'ai fait aussi, j'ai fait Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs, avec François Perrier, Gaby Silvia, etc., Carrette. Et j'ai fait aussi La Ronde des Heures, un remake de La Ronde des Heures, un des premiers films parlants fait par Bauger, que j'ai bien connu et qui est venu même faire la présentation du film.
André Bauger.
André Bauger, oui, oui.
Qui avait été une des vedettes du cinéma musical de l'époque.
Oui, oh, bah, c'était le démarrage tout à fait du cinéma parlant.
Oui. Et donc là, oui, cette page des Visiteurs du Soir, évidemment, il faut rappeler que c'est une musique composée par Maurice Thirier, un compositeur un peu oublié aussi, que vous avez bien connu parmi toutes ces figures qu'on voudrait faire revivre ici.
Ces compositeurs-là, Marcel Delannoy également, enfin des tas de compositeurs.
Vous avez créé d'ailleurs des œuvres de Jolivet, de Millot, enfin de beaucoup de contemporains également. Oui. Jacques Janssen, ce qui frappe beaucoup dans tous vos enregistrements qu'on a pu entendre aujourd'hui aussi, c'est la qualité absolument impeccable et élégante de la diction quand vous chantez. C'est assez... Je sais pas, vous n'avez pas l'impression que ça s'est un petit peu perdu, malheureusement, chez les chanteurs?
Si, exactement. Maintenant, il faut rester naturel. Mais le naturel du théâtre, c'est pas celui de la vie.
Et voilà.
Alors maintenant, il faut rien changer. Alors on arrive à ne plus comprendre un mot, souvent, de ce qui s'est dit. Ça, ce travail, c'est la première politesse d'un artiste, c'est de se faire comprendre.
Et c'était, par exemple, quelqu'un comme Panzera, il attachait beaucoup d'importance à cela?
Oui et non, ça coulait de source, c'était obligatoire, c'était des poèmes de Verlaine en général, j'ai travaillé tout Forêt avec lui, qu'il avait travaillé avec Panzera, Forêt lui-même, bien sûr.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer de chanter si on ne comprenait pas absolument chaque syllabe.
Ouais. Non, bien sûr, puis ça se travaille aussi, j'ai eu ma médaille de diction au conservatoire.
Mais alors justement, vous parliez un petit peu tout à l'heure du déclin de l'opérette française, en tout cas de la désaffection des directeurs de théâtre. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'il y a de moins en moins d'artistes, de chanteurs qui peuvent faire ce répertoire
Il y en a, mais on leur demande rien. J'en connais des cadets, évidemment, que j'ai bien connus.
Comme professeur, d'ailleurs, que vous avez été vous-même au conservatoire.
Oui, au conservatoire. Dans la classe où j'avais été élève de Jouvet, du reste.
Ah oui, voilà.
Oui.
Donc vous n'êtes pas trop pessimiste pour l'avenir de ce
genre ? Non, j'espère qu'il y a un revirement. Vous savez, la mode, c'est une roue qui tourne, ça reviendra. Si ça se trouve, tous ces ouvrages qui sont très beaux reviendront, auront toujours la faveur du public, mais celle aussi des directeurs.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venu avec nous, Jacques Janssen.
Merci à vous.
On va se quitter avec un de vos rôles fétiches, si l'on peut dire, dans le répertoire d'opérette, puisqu'il s'agit de Danilo dans La Veuve Joyeuse.
Voilà.
Et ici, vous êtes dans le fameux duo de L'Heure Exquise avec Denise Duval, autre grande dame de l'opéra et de l'opérette.
Avec qui j'ai beaucoup joué Paléas, du reste.
Voilà. Encore un exemple de quelqu'un qui aimait passer de la fantaisie à la musique plus sérieuse. Merci Jacques Janssen, à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Et tendre vie à toi, mon cœur chante avec vous, à casse cœur, à casse vous.
Baby, promis un gardon, le gazon glisse et l'air est doux. Et le brebis vous dit, je t'aime.
Jacques Janssen dans Étonnez-moi Benoît, c'était le 3 mars 2001 et je vous propose de rester encore un instant en compagnie de mon invité avec le merveilleux final de Malvina de Reynaldo Hahn sous la direction de Jean-Paul Kreder.
Je t'aime,
je t'aime,
tu m'aimes,
elle m'aime, bonheur suprême, dans le septième ciel nous planons.
Tu m'aimes,
merveilleux thème, divin poème, nous aimons.
Tous ces petits sont gentils, tous ces amants sont charmants, ils s'aiment la joie autour de nos aimants tous les deux.
Mon bien-aimé,
ma bien-aimée, ce fut pas un bonsoir de mai quand je t'ai fait. Tout nous disait aimer.
À nos baisers unis nos âmes,
enlacés nous surpris le jour.
C'est ainsi que nous nous aimons.
Jacques Janssen et Lina Dachary dans le final de Malvina de Reynaldo Hahn par l'orchestre lyrique et les chœurs lyriques de Radio France sous la direction de Jean-Paul Kreder. C'était le 24 janvier 1961. Et puisque nous célébrons cette année les 150 ans de la naissance d'Albert Roussel, eh bien, je vous propose de nous quitter en compagnie de ce grand compositeur trop négligé. On écoute la suite en fa, trois mouvements, prélude, sarabande et gigue par l'Orchestre de Paris sous la direction de Charles Dutoit.
Thank you.
Albert Roussel, la suite en fa par l'Orchestre de Paris sous la direction de Charles Dutoit. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle rediffusion d'Étonnez-moi Benoît en compagnie de Micheline Dax.
À réécouter sur francemusique.fr.